Donc, avant même de parler de cette exposition Manguin au musée Bonnard, je voudrais juste vous faire un petit rappel historique sur le musée, qui est, comme vous le rappeliez, un musée très jeune. Voilà, c'est ça. Un musée très jeune, puisqu'il a été inauguré en 2011. Et je pense que c'est aussi un cas, je pense, unique dans le paysage muséal français. C'est qu'on a eu l'appellation Musée de France en 2006, donc bien avant l'ouverture, avec quasiment au départ aucune collection. Donc c'est pour vous dire que tout est possible, mais bon, ça demande beaucoup de pugnacité, dirons-nous, de tous les côtés, que ce soit des côtés des élus, du conservateur que je suis, des conseillers techniques et de la direction des musées de France, et bien sûr des mécènes qui nous avaient accompagnés et qui continuent de nous accompagner. Donc je vais vous passer, parce que en fait ce que je préférerais c'est les échanges avec le public, je vais passer un ensemble de photos assez rapidement et puis vous poserez des questions après. Mais le musée donc Bonnard a un sens assez prégnant au Canet, hein, puisque comme vous le savez peut-être, Pierre Bonnard a vécu au Canet dès les années 20. Il y avait donc acheté une maison en 1926 et cette maison a une importance vraiment capitale dans son raisonnement sur la peinture, sur ces sujets, mais aussi bien sûr sur la lumière, hein, puisque Bonnard oscillait entre la Normandie et la Méditerranée. Et justement, je vous montre quelques photos de cette maison. Hein, cette maison qui n'est donc pas le musée Bonnard, hein, comme beaucoup de gens pensent qu'on a fait le musée Bonnard dans la maison de Bonnard. Heureusement non, parce qu'elle a gardé comme ça son âme, elle est restée dans son jus et elle serait vraiment trop petite pour être le musée. Donc vous voyez quelques espaces qui étaient importants et ça ce sont les espaces du musée puisque le musée a été implanté dans un hôtel particulier du début du siècle, un peu dans l'esprit de l'époque de Bonnard et a des salles très intimes et ce qui ne permet pas justement de faire énormément de scénographie contrairement à mes collègues que vous avez vus ce matin des grandes institutions parisiennes. Et d'ailleurs, nous n'en aurions pas le budget pour faire à chaque exposition une scénographie hautement construite par des espaces de construction puisque les espaces du musée et les espaces d'exposition représentent à peu près 550 mètres carrés sur presque 900 mètres carrés le musée. Pour tous les espaces d'accueil, d'ateliers, etc. Donc, bien sûr, la programmation que nous proposons au musée est centrée, bien évidemment, sur l'œuvre de Bonnard, mais pas seulement. J'ai envie de dire que la première exposition du musée était naturellement Bonnard et le Canet, donc exclusivement réservée à la période canétane de l'artiste, hein, qui va de 1920 à 1947 et qui était vraiment orientée sur toute la question du territoire, hein, et la question de cette maison. Et c'est pour ça qu'on aime bien associer certaines visites avec, si vous voulez, une représentation virtuelle de la maison puisqu'elle n'est pas visitée. Elle est classée monument historique, elle est toujours en main privée et donc c'est très rare de pouvoir la visiter même durant les journées du patrimoine. Donc j'essaye de me battre chaque année pour que ce soit possible parce que les gens qui aiment l'œuvre de Bonnard aimeraient bien voir son espace de recherche, son espace de travail, les lieux qui l'ont inspiré. Et puis c'est des lieux qui sont assez magiques parce qu'ils sont d'une simplicité absolue, comme la peinture de Bonnard l'est en apparence. Donc, alors, pour revenir à la programmation, elle prend comme point de départ Bonnard, mais aussi, il est important pour moi de m'intéresser à son réseau d'amis. Donc, c'est pour ça que nous avons eu d'autres expositions sur Missia, Reine de Paris, qui était une exposition qui était reprise du musée d'Orsay. J'en profite pour dire qu'on avait signé un partenariat scientifique avec le musée d'Orsay dès 2012, parce que quand on a ouvert le musée Bonnard, j'avais demandé à Guy Cocheval un certain nombre de dépôts, qui m'a automatiquement refusé, mais il m'a dit je ne te propose pas de dépôt, ça serait toujours un petit peu statique. Donc ce à quoi il a eu raison, au départ ça m'avait beaucoup contrarié, et en fait il nous a proposé ce premier partenariat scientifique avec un musée en région, et ça a été vraiment porteur parce que depuis, il nous prête des œuvres exceptionnelles qu'on n'aurait jamais eues sans ce partenariat avec le musée d'Orsay. D'ailleurs, l'exposition de cet été, il y aura 7 œuvres majeures de Bonnard dans l'exposition que nous aurons cet été. Et à chaque exposition, il prête des œuvres, que ce soit de Gauguin selon le sujet, là dans le nu de Gauguin à Bonnard. L'exposition Bonnard entre amis, il avait prêté des œuvres vraiment qui ne sortent pas beaucoup en dehors de Paris ou de l'étranger. Et je dois dire que moi, je n'ai rien à lui prêter en échange, mais justement, c'est cet échange-là qui est important entre nous et qui a été capital dans la programmation des expositions que nous pouvons proposer au public, qui sont donc essentiellement l'été, puisque la plupart de nos visiteurs, bien sûr, viennent sur le bassin méditerranéen l'été, mais pas seulement. Ce sont des expositions qui durent assez longtemps pour des expositions temporaires, parce qu'elles durent 4 mois. Donc, ce n'est pas facile pour obtenir les prêts pour 4 mois et donc difficilement négociable en partenariat avec d'autres musées. Et après, on fait des expositions thématiques sur des estampes, des expositions un peu moins onéreuses pour alimenter après le reste de l'année et puis avec des accrochages des collections. Parce que nous avons aussi des collections, en 10 ans, nous avons pu acquérir un certain nombre d'œuvres et aujourd'hui on peut dire qu'on a à peu près 180 œuvres dans les collections du musée, que ce soit en peinture, en petite statuaire et puis en dessin bien évidemment, alors que ce soit à la fois des acquisitions, des dépôts privés et publics. Donc, public parce qu'il a quand même été contraint, Guy Cauchevald, de nous déposer 2 œuvres qui avaient été achetées par un mécène privé et qui les avait achetées mais données à l'État pour qu'elles soient déposées au musée Bonnard dès l'ouverture. Donc ça, c'était une condition incompressible. Voilà, donc on avait vraiment beaucoup été aidés à l'inauguration du musée. Puis aussi, il faut bien dire que Bonnard, c'était aussi réparer une sorte d'injustice puisqu'il n'y avait pas de musée Bonnard dans aucune ville de France, ni même à l'étranger, bien évidemment, et alors qu'il y avait 2 musées Matisse et plusieurs musées Picasso. Mais ces musées-là avaient été une volonté des artistes eux-mêmes, ce qui n'était pas le cas de Bonnard, hein, qui n'est pas du tout le même genre d'artiste, qui n'avait pas cette même capacité à vouloir se mettre un petit peu sur la sellette, un petit peu en avant. Donc, pour revenir à la programmation, donc il y a bien sûr son réseau d'amis, sa famille, son attachement à certaines thématiques, avec en ligne de mire mon intérêt pour ce que l'on pourrait nommer les enfants de Bonnard. Les enfants de Bonnard, expression que j'emprunte au peintre Roberto Mangou, qui a participé par un très beau texte à la première exposition, et c'est-à-dire une ouverture aux générations d'artistes que Bonnard a directement ou indirectement influencées, tels que ceux de la seconde école de Paris, je pense à Pierre Le Sueur par exemple, ou les artistes abstraits américains comme Rothko ou John Mitchell, ou encore des peintres d'aujourd'hui sur des registres très différents, comme la couleur et la lumière pour Monique Friedman, hein, que, souvenez-vous, elle a exposé au Louvre, justement, de très très belles œuvres, et elle a fait tout un corpus d'œuvres qui s'appelle Les Saisons de Bonnard, ou l'idée de la profondeur, pour Roberto Mangou, donc une idée très, très intellectuelle et très importante dans la peinture de Bonnard, qui est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Et c'est vraiment un intérêt toujours renouvelé de pouvoir travailler sur cet artiste qui, en dehors des petites scènes intimistes que l'on peut percevoir au premier abord, a un rapport à la peinture et à l'intellectualisation de l'espace qu'il a donné dans sa peinture qui est très, très important. Donc on renoue, si vous voulez, avec des questions sur la représentation et son espace symbolique qui sont très importants et qui vont, pour moi, à l'avenir, être un moteur pour essayer de faire entrer l'art vivant, en tout cas l'art après Bonnard, au musée Bonnard. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore réussi à le faire, parce que je ne devrais pas dire réussir, mais je devrais dire on n'a pas encore eu le temps de le faire, parce que c'est important d'asseoir un peu l'aspect historique de certaines thématiques autour de Bonnard, de l'époque de Bonnard, et après de se concentrer progressivement sur un certain art vivant, en tout cas sur la peinture contemporaine. Alors, pourquoi, pour en revenir au sujet qui m'amène ici devant vous, c'est pourquoi exposer Manguin au musée Bonnard, donc à l'été 2015, l'été dernier. Il y a, je dirais, 2 raisons majeures. Une première raison qui est un peu périphérique, qui est le fait que le musée d'Orsay, comme vous le savez, a organisé une très grande exposition Bonnard l'automne dernier, donc au musée d'Orsay, et qui avait la mauvaise idée pour moi de voyager dans trois villes qui étaient Madrid et San Francisco. Elle est encore en cours à San Francisco. Donc ça condamnait, entre guillemets, pour moi, des œuvres auxquelles je pensais pour l'exposition que je vais présenter cet été d'ailleurs. Et donc j'ai dû trouver un autre sujet, mais c'est Manguin. J'y travaillais déjà depuis longtemps, depuis très longtemps déjà dans mes autres fonctions au musée Cantini à Marseille. Et Manguin est une cheville importante dans l'œuvre de Bonnard. C'est lui qui lui a fait découvrir la Méditerranée. Il l'a invité chez lui à Saint-Tropez, parce que Bonnard, vous le savez, n'était pas du tout un homme du Sud. Hein, il est plutôt né dans la région parisienne. Il a beaucoup voyagé en Normandie, à Trouville, à Deauville, etc. Et il a passé un peu la barrière de la Loire dans les années 1907-1908, donc invité par Manguin dans son atelier de Saint-Tropez. Et il a eu ce fameux coup des mille et une nuits qui l'ont marqué pour toujours, puisqu'après, il a fait sans cesse ses voyages entre le Midi et la Normandie. Donc l'autre question, c'était ces deux raisons, à la fois contextuelles par rapport à la possibilité d'avoir des œuvres de Bonnard pour une exposition thématique, étaient résolues, et aussi c'était s'attacher à un autre artiste qui était dans le périmètre aussi des collections et de la programmation du musée Bonnard, qui était intéressant parce que Manguin, même chez les fauves, n'est pas très connu et même reconnu. Ça a été une grande découverte pour le public. Donc je vais vous montrer très rapidement les espaces. Là, c'est l'entrée du musée avec, bien sûr, ce n'est pas Manguin, mais c'est Bonnard qui est en photo parce qu'on est au musée Bonnard. Et il y a une scénographie qu'on essaye d'avoir, si vous voulez, on utilise les couloirs de circulation pour annoncer les titres. Alors les expositions se développent sur trois niveaux généralement, et quand la particularité du musée, puisque je vous disais leur surface tout à l'heure, c'est qu'on est obligé de démonter les collections pour réaliser, pour montrer une exposition. Donc ça peut poser un problème quand on est un musée monographique, c'est que les gens qui viennent l'été s'attendent à voir des œuvres de Bonnard. Donc il est important de vraiment travailler sur le public, sur le faire savoir qu'il n'y aura pas d'œuvres de Bonnard à voir cet été. Donc ça, c'est toujours aussi important, et c'est donc les espaces qui nous dictent, si vous voulez... étant donné que là, pour l'exposition Manguin, on avait à peu près 70 œuvres, c'est le maximum que l'on puisse montrer au musée Bonnard. En général, il n'y a pas de très très grands tableaux, bien que si, il y a eu certaines œuvres qu'on ne peut pas montrer plus de 4 mètres de haut. Une peinture de Bonnard ou d'un autre artiste ne rentrera pas dans le musée, ce qui est déjà pas mal. Donc là, ici, voilà, il y a un panneau. Derrière ce rideau roulant, on a mis une biographie, parce qu'il était important de contextualiser justement l'œuvre de Manguin parmi les faux, puisqu'il a eu un rôle moteur. C'est sur derrière ce rideau roulant, qui était obligé qu'il soit roulant, parce que c'est l'accès aux climatisations de chaque étage. Donc elles doivent être accessibles. Donc il y a ces contraintes qui sont techniques, on s'en sert aussi pour y mettre notre appareil, si vous voulez, pédagogique. Donc ça, c'est une salle d'introduction. Après, il y a beaucoup moins de textes. Je me sers en général essentiellement de citations qui sont clairsemées dans les salles. Et surtout, on a des médiatrices qui œuvrent et on a des audioguides qui sont gratuitement téléchargeables. On a le Wi-Fi dans le musée qu'on a fait installer il y a peu de temps. Donc, si vous voulez, moi, je préfère donner la priorité à la visibilité des œuvres. Plutôt qu'il y ait trop de textes à lire, mais bon, ça arrive parfois qu'il y en ait, selon les expositions que l'on organise, c'est important qu'il y ait beaucoup de textes aussi. Mais voilà, donc si vous voulez, il y a des fiches de salle et il y a aussi, tout l'aspect téléchargeable, gratuit. Et sinon, quand on ne l'a pas téléchargé, l'audioguide est à 1 euro et après, il y a des visites guidées gratuites ou des visites guidées payantes selon le sujet. Donc l'importance de cette exposition qui révélait, si vous voulez, la position de Manguin dans le fauvisme était importante pour moi. Ça m'a permis, comme vous voyez ici, je ne sais pas comment on fait pour montrer ça, à gauche sur le panneau bleu, c'est une œuvre qui est attribuée à Matisse qui a été prêtée par le Centre Pompidou, et à droite c'est une œuvre de Marquet, et toutes les deux ont été réalisées dans l'atelier de Manguin rue Boursault, puisque on l'a appelé, si vous voulez, je l'ai appelé le laboratoire du fauvisme, parce que c'est là où les artistes travaillaient ensemble. Ils n'avaient pas les moyens de se payer des modèles individuels, donc ils se partageaient le fruit du modèle, et bêtement, malheureusement, je n'ai pas pu avoir le modèle, le tableau de Manguin qui est ici sur un grand panneau. Donc je voulais quand même qu'il y ait la trace de cette œuvre qui était importante dans l'exposition, et que le public voit la proximité de chacun de ces trois artistes qui travaillaient de concert, et qui à aucune autre époque, je pense, les peintres ont travaillé de telle façon, dans la proximité. Alors, voilà une autre vision de cette salle. Donc on joue essentiellement sur les couleurs des murs. À chaque exposition, les murs sont repeints, rebouchés. Et comme nous n'avons pas de scénographe, c'est en fonction, nous c'est assez classique en fait, on a essentiellement de la peinture ou du dessin. Donc les contraintes du dessin, on sait ce qu'elles sont, hein. Il faut faire attention justement à la luminosité. Et la peinture, en général, les problèmes auxquels on peut être confronté, c'est les cadres qui arrivent, qui sont parfois complètement dissonants par rapport à ce qu'on peut obtenir. Là, dans ce type de peinture, ce sont souvent des gros cadres dorés qui sont parfois en très mauvais état. Donc on doit aussi résoudre ces problèmes de visibilité des œuvres. Et donc au centre sont présentés un ensemble de dessins préparatoires qui sont importants. Donc dans cette exposition, on a eu des prêts, sur les 70 prêts, il y a eu énormément de collections privées, mais quand même des institutions importantes, parce que comme je vous le disais, Manguin est un peintre méconnu, mais il a été collectionné très tôt par des grands collectionneurs russes, par exemple, les Shtoukine et Morozov. Et il y a une œuvre qui a été prêtée par le musée Pushkin, donc à Moscou, et une autre à Vienne, de l'Albertina de Vienne, qui sont des musées très compliqués, et est très compliqué. Je vois que vous faites onéreux aussi. Oui, pour les Russes, ils demandent ce qu'on appelle des loan fees. Mais quand ce sont des œuvres qu'on n'a pas l'occasion de voir et qui soutiennent notre propos, et si on a bien sûr le budget, c'est intéressant et vraiment bien de les faire venir, parce que justement, elles participent à la reconnaissance d'un artiste. Et je dis ça tout à fait modestement, mais grâce à cette exposition, le musée, la Fondation Mapfre à Madrid, qui prévoit de faire une exposition sur les fauves en mois d'octobre prochain, a prévu d'emprunter une vingtaine de Manguin, alors que ce n'était pas du tout prévu au départ, parce qu'ils ont découvert cet artiste par l'exposition du musée Bonnard. Donc c'est une réévaluation de son œuvre fauve, hein, parce que là, au musée Bonnard, il ne s'agissait pas de faire une rétrospective, on s'est plutôt intéressé à la période forte de cet artiste. Et donc aussi, notre rôle, c'est de vraiment donc publier un catalogue, qu'il soit avec le plus d'archives possible. Et là, pour le qu'à présent, j'ai eu l'accès aux archives Manguin, qui sont exceptionnelles par des correspondances. Il avait un Argus de la presse, donc ça donne aussi un panorama sur l'époque, sur ces 10 premières années du XXe siècle, très, très intéressante. Les correspondances qu'il pouvait y avoir entre Matisse, Marquet, Bonnard aussi, puisqu'ils étaient dans les mêmes galeries. Vous savez, à cette époque, les artistes partageaient les mêmes marchands. Bien souvent, ils avaient les mêmes connivences. Donc là, on voit un accès du musée dans la partie contemporaine, parce que vous avez peut-être vu dans la photo initiale, la première photo, au bâtiment est accolé un bâtiment contemporain qui permet donc la circulation verticale et permet d'avoir aussi un ascenseur, donc l'ensemble du bâtiment est accessible à tous, et ça permet aussi justement d'avoir aussi une vue sur la Méditerranée. Là j'ai oublié, parce que du Canet on voit la mer. Et c'est ce qui intéressait Bonnard, c'est d'avoir une vue très vaste sur l'Estérel et sur la Méditerranée, et parce qu'il cherchait toujours à avoir un point en surplomb, que ce soit en Normandie ou dans tous ces lieux de vie, ça a été, le choix des lieux était important. Donc voilà un ensemble des salles avec donc des vitrines murales. Là, ces vitrines murales, elles sont toujours là. On pourrait avoir n'importe quel scénographe, elles existeraient parce qu'elles sont permanentes dans les murs du musée. Donc un ensemble de paysages fauves, de figures. Vous voyez une des grandes salles. Donc il y a trois niveaux comme ça d'exposition où il est possible donc d'avoir un discours assez construit dans une certaine chronologie. Et puis ici sur la droite, là c'est pas un très bon exemple, c'est visuellement pas très bien, mais c'est là qu'on met aussi les fiches de salles qui sont accessibles. Et nous avons aussi des fiches de salles en braille, parce que un mécène nous a offert une imprimante en braille. Donc ça permet d'avoir certains ateliers et certains accès à un public différent. Voilà, donc on se sert, donc comme c'est assez permanent, une signalétique différente. Alors vous voyez, les cartels ne sont pas, là sur la photo, sont fondus dans la couleur, donc ne sont pas très grands, mais ils sont suffisamment lisibles. Mais de toute façon, je ne crois pas qu'il y ait de solution miracle pour les cartels. Je pense que tous mes collègues, on a tout essayé, que ce soit des cartels qui soient lus et visibles de tous, c'est pas facile. Au départ, on nous avait fait une proposition de cartel qui était inclus dans la plainte. Vous voyez, il y a un creux dans la plainte, et la scénographe à l'ouverture du musée avait prévu ça, et c'était complètement, il fallait se mettre à quatre pattes pour lire l'œuvre, pour lire le titre, pardon. C'était très beau parce qu'il n'y avait pas aucune interférence du texte et de l'œuvre, ça mettait très en valeur l'œuvre, mais en même temps il y a un grand nombre de publics qui veut avoir l'information également, et elle était quasiment illisible, et on trouvait c'est très rigolo, c'est pas rigolo quand on le lit, mais dans le livre d'or on dit c'est quoi ces cartels pour chiens, donc c'est vrai qu'un petit peu les chiens sont interdits dans les musées, donc on ne faisait aussi des cartels pour eux. Donc voilà, il y a un sens de rythme. Et on a fait ce petit clin d'œil de rapprochement de ce paysage à l'amandier de Manguin avec un amandier de Bonnard, qui est une œuvre qui est rentrée par don il y a 2 ans dans les collections du musée, qui a été achetée en vente publique par un grand mécène de l'État français, qui est la Fondation Meyer, qui a déjà donné tout un ensemble d'œuvres au musée d'Orsay, et dont nous avons 2 œuvres majeures qui sont à l'origine de la fondation du musée. Et ils ont perpétué ce geste généreux en achetant en salle des ventes à Londres ce très bel amandier, puisque c'est un amandier, l'amandier dans le jardin de Bonnard est emblématique, puisqu'il disait que chaque année il le forçait à le peindre. Il y avait comme ce rapport un petit peu animique à la nature et qui est totalement prégnant dans son œuvre. Donc c'était un petit clin d'œil, cet amandier des années 30 en regard de cette œuvre de 1907 de Manguin. Ainsi, donc ce rapport est toujours sur les rideaux roulants, des agrandissements, soit de photos, soit de citations, etc. Et bien sûr, les éternels moments du démontage qui sont toujours autant... L'arrivée des œuvres est une vraie joie parce qu'on change un peu son plan. On a un plan idéal et puis après, on change un petit peu les choses. Et puis après, quand on voit repartir les œuvres, c'est toujours un peu triste. C'est toujours le moment un petit peu délicat, les éternels constats d'œuvres qui sont faits. Et puis, on découvre parfois des œuvres qui ont énormément voyagé, qui ont ces parquetages complètement fous qu'on ne fait plus aujourd'hui, heureusement. Et puis voilà, là, la photo est terriblement allongée, mais c'est un ensemble des types de documents que l'on peut sortir, à la fois le carton d'invitation, les flyers pour le public, qui nous donne un petit peu toutes les indications possibles que l'on peut trouver au musée, avec différents types d'accès. Et ce que j'essaye de privilégier, c'est... j'ai une très petite équipe, mais j'ai voulu qu'il y ait une personne qui soit complètement sur les réseaux sociaux, qui essaye de toucher le plus de jeunes possible, parce qu'on a tous la problématique de faire rentrer je sais plus, c'est une des collègues de ce matin qui disait qu'elle avait la collègue de Cambridge qui voulait faire rentrer les jeunes de 20 ans dans les musées, qu'il fallait leur offrir à boire, mais c'est pas faux. Donc on essaye de capter leur attention et surtout leur intérêt pour les collections qu'ils ont autour d'eux, surtout des étudiants en art. On est assez impressionnés de leur peu de visites dans les musées. Donc voilà, donc c'était mon vœu le plus important, d'avoir une jeune femme qui fasse à la fois le site du musée, qui suive les comptes Facebook ou Twitter du musée, qui relaye toute notre information pour justement capter une génération qui est terriblement connectée. Voilà, je vous remercie. J'espère.